C'est extra de nous retrouver pour cette cinquième. Moi, c'est Bernard, le faire-valoir.
Moi, c'est Colette Brognard.
L'érudite, la ferréologue distinguée.
Oui,
que nous écoutons attentivement.
Donc, cette émission-là, à la demande de Bernard, sera d'ailleurs faite en deux fois. Donc, une première partie aujourd'hui, c'est Léo Ferré et les poètes qu'il a mis en musique. Et comme il se trouve qu'il en a mis 23 en musique, soit environ 150 poèmes, c'est trop énorme pour une seule émission. Alors, ces poètes qu'il a mis en musique vivaient du XIIIe siècle au XXe siècle. Léo Ferré disait que lorsque la musique ne venait pas instantanément, il renonçait à les mettre en musique car il voulait les servir au plus juste, en toute humilité et authenticité. Alors pourquoi cette mise en musique ? Eh bien, ses objectifs étaient de les faire connaître, ces poètes, et aussi parce que la musique facilite la mémorisation. Et puis, par ailleurs, lui, il avait dit d'ailleurs à Apostrophe, une émission Apostrophe en 80, c'était mon devoir d'amour de les mettre en musique. La plupart de ces poètes font vraiment partie de sa vie personnelle. Et il a, du reste, introduit dans ses chansons les poètes en question. Alors on va commencer, on va rejoindre les poètes par Saint-Germain-des-Prés, où il nous donne rendez-vous.
J'habite à Saint-Germain-des-Prés, et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé, et pour courir le Guilledou, près de la Seine, souvent l'on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarder chez nos misères. Ces bêtes, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs timblèmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves. Quand même ils parlent le latin et n'ont plus faim. À Saint-Germain-des-Prés, si vous passez rue de l'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine, regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. Ces bêtes, il fallait y penser, saluons-les. À Saint-Germain-des-Prés.
Alors, cette chanson-là a été enregistrée en 1950. Alors, nous allons suivre les poètes qu'il a mis en musique chronologiquement, de façon à être, comme Léo Ferré, des passeurs en poésie. Mais ce n'est pas dans cet ordre-là, en réalité, que Léo Ferré les a mis en musique. Alors, on va évidemment commencer par celui du XIIIe siècle, Ruteboeuf. Alors, Ruteboeuf, il vivait donc à l'époque de Saint-Louis. C'était un jongleur et un trouvère. Donc, il écrivait et il chantait ses poèmes. Puisque à l'époque, au Moyen-Âge, on chantait la poésie comme dans l'Antiquité d'ailleurs. Mais on n'a pas retrouvé de traces de cette musique. Par contre, on sait de lui qu'il écrivait des poèmes très polémiques, évidemment, et satiriques à l'égard des puissants. Et on sait qu'il fréquentait les tavernes, qu'il avait la passion du jeu. Son œuvre a déjà une tonalité personnelle, ce qui est nouveau pour l'époque. Alors Léo Ferré a mis en français moderne, puisque Ruteboeuf écrit dans ce que l'on appelle l'ancien français, Léo a mis en, a rassemblé deux textes sous un titre « Pauvre Ruteboeuf » parce que, dit-il, il était pauvre et malheureux en amour. Place à Ruteboeuf.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Sans ces pauvres mémoires, m'a Dieu donné le roi de gloire et pauvre rente. Et droit au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte. Et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Chargé de l'iconophonie, c'est pas un gros mot. J'ai choisi cet enregistrement qui est le premier de cette chanson, en 1950 également. Et c'était sorti en 78 tours. Pour mémoire, le 78 tours est à peu près en CD ce que Neanderthal est à Sapiens Sapiens. C'était tout noir, tout lourd, tout cassant, au moindre choc ça pétait. Pour le lire, fallait une aiguille, on en changeait à chaque passage. Enfin... Et donc, il y eut un second enregistrement en 1953 pour le micro-sillon.
Bien, après ces précisions sont essentielles. Alors, je précise également que cette mise en musique de Ruteboeuf a contribué à le faire connaître, Ruteboeuf, au monde entier. Et que Johann Baez, en 65, a chanté « Pauvre Ruteboeuf » en français, sur la musique de Léo, bien sûr, avec un petit accent. Bon, Johann Baez était à l'époque l'égérie de la jeunesse et aussi la compagne de Bob Dylan. Alors Léo Ferré avait eu l'occasion de chanter « Pauvre Ruteboeuf » à la télévision. Et le lendemain, il y a un camionneur qui l'a interpellé dans la rue et qui lui a dit « Alors Léo, quand est-ce que tu nous rechantes le pauvre boeuf ?» Et Léo était... très content d'abord de cette réaction enthousiaste et du fait que cet homme avait manifestement découvert Rudebeuf puisqu'il avait quelque peu écorché son nom. Alors le second poète que Léo va mettre en musique, chronologiquement parlant, c'est Villon, François Villon, donc, qui a vécu au XVe siècle. Alors lui, c'est un poète au lyrisme pathétique, qui a eu aussi une vie difficile de pauvreté. Il devait voler pour manger, il a participé à des rixes, et il a aussi quand même eu la mauvaise idée de tuer un moine, ce qui lui a valu quelques inquiétudes. Et puis, il a par la suite eu une nouvelle altercation, et cette fois-ci, il a été de nouveau condamné, parce qu'il y avait la récidive, en quelque sorte, et il a été donc en prison, et c'est là, soi-disant, qu'il aurait écrit la ballade des pendus. En fait, c'est pas certain du tout, et ce titre a été ajouté postérieurement. En réalité, il vaut mieux lui donner le titre des premiers mots, ce qui était généralement le cas, et ça s'intitule « Frères humains ». Alors Léo a fait un enregistrement sans doute relativement ancien de cela, mais ça on demandera à Bernard tout à l'heure, mais sinon il y en a un plus récent, en 82, où assez curieusement, il mélange « Frères humains » à un texte « L'amour n'a pas d'âge » qui est de lui. « Frères humains ».
Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs qu'entre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci.
L'amour n'a pas d'âme.
Vous nous voyez si attachés, 5-6.
Et la mer est ta...
Quand de la chair que trop avons nourri,
là-bas,
et les pieds ça,
sur la plage,
dévorés et pourris,
non plus
et nous les eaux,
n'a pas
devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rimait, priez Dieu que tous nous veillent absoudre.
Les mots sont les mots.
Si, frères, vous clamons, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy, par justice.
Toujours mal crié.
Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis.
Pourtant, il faut bien.
Envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre.
Se servir.
Nous sommes morts, amenez-nous à rire, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
On nous a laissé.
La pluie nous a débué et lavé, et le soleil desséché et noirci.
Écrit sur la vie.
Pis, corbeaux, nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis.
Criez dans.
Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que des accoudres.
Des amants lassés.
Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre, frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Vous nous voyez si attachés, 5-6. Quand de la chair que trop avons nourri à l'épée et ça dévoré et pourri, et nous les eaux, devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
L'amour,
prince Jésus,
n'a pas d'âme,
qui sur tous a maîtris.
Et la mer,
garde qu'enfer,
et ta...
n'aide-nous, Seigneurie.
là-bas,
à lui,
sur la plage,
n'ayant que faire, ni que soudre, homme,
n'a pas d'âme.
Ici, n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Je n'ai trouvé aucun enregistrement antérieur, donc je peux presque affirmer qu'il n'y en a pas.
Alors, pour compléter ta réponse, il a mis deux autres poèmes en musique de Villon, mais pour l'instant, ils sont inédits. Alors, est-ce qu'ils seront un jour produits à l'état un peu bon, de fragments, peut-être, hein, non aboutis, comme c'est arrivé pour d'autres dont on parlera tout à l'heure?
Moi, j'ai une autre question, profitant de ton érudition en règle générale. Quand j'étais petit, on l'apprenait à l'école, ce poème, il s'appelait « La balade des pendus ».
Oui, oui.
Pourquoi il s'appelle « Frères humains » aujourd'hui ?
Non. J'en ai parlé tout à l'heure et je vous prierai d'être un peu plus attentif à l'avenir. Or donc, on lui a donné le nom de « La balade des pendus », mais ce nom a été donné postérieurement. Mais initialement, en fait, les poèmes prenaient souvent les premiers vers. Ou les premiers mots. Donc, c'est Frères humains, le vrai titre, entre guillemets, vrai autant qu'on peut dire vrai. Mais le reste, c'est très postérieur.
On nous apprenait encore des bêtises à l'école.
Et ben voilà. Alors, donc Léo en a mis deux autres en musique, Belle leçon aux enfants et Le lait. Alors, lait, L-A-I-S, hein, bien entendu, c'est un long poème au Moyen-Âge. Alors, ce poète Villon est très très présent dans la vie de Léo. Il s'adresse souvent à lui, soit à propos des corbeaux, soit par rapport à la poésie. On écoute justement la poésie Foulcan.
Tu te balances, compagnon, comme une tringle dans le vent, et le maroufle que l'on pense fout pas mal de tes chansons. Tu peux toujours t'en mitoufler pour la saison chez Gallimard. Tu sais qu'avec ou sans guitare, on finit toujours sur les quais. La poésie fout le camp, Villon. Y'a que du néon sous du néon. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. Si je parle d'une balade à faire avec mon vieux hibou, on me demandera jusqu'où je pense aller en promenade. On ne sait pas dans mon quartier qu'une balade en vers français, ça se fait sur dessous de papier et sans forcément promener. La poésie fout le camp, Villon. Y a des bêtas sous du béton. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. En 1950 et plus de tes juges, on a les petits, ça tient de famille à ce que l'on dit. Ça se fout une robe et t'es pendu. Tu vois, rien n'a tellement changé à part le fait que tu n'es plus pour rimer les coups de pied au cul que nous ne savons plus donner. La poésie fout le camp, Villon. Y'a que du néant sous du néant. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. Emmène-moi dedans ta nuit qui est pas frangine avec la loi. J'ordonne qu'après mon trépas, ce qui est écrit soit écrit. Il y a des corbeaux qui traînent ici peut-être, qu'ils n'ont plus de pain et je n'attendrai pas demain pour qu'ils aient un peu de ma vie. La poésie fout le camp, François. Emmène-moi, emmène-moi. Nous irons boire à Montfaucon, à la santé de la chanson.
Poésie fout le camp, Villon. Petite précision discographique, cet enregistrement serait de 1960, mais j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, car il est resté inédit jusqu'à 2013 pour figurer sur une anthologie, une intégrale Barclay, qui s'appelle L'Indigné.
Alors, Il a été écrit ce texte en 56 apparemment. D'ailleurs, dans ce texte, il dit dans les années 50 et plus. Donc, il y a toujours évidemment ce que j'avais dit d'ailleurs dans une émission, un décalage entre le moment où c'est écrit, le moment où c'est mis en musique et le moment où c'est enregistré. Ce qui peut faire que parfois on est un petit peu entre plusieurs dates. Enfin, c'est pas très 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 important. Le troisième poète au niveau toujours chronologique au XVIe siècle, c'est Ronsard. Ronsard qui lui vivait sous François Ier. Et c'est un poète qui chantait l'amour, les femmes, bien sûr, avec toujours en fond le temps et le vieillissement et la mort. Alors, évidemment, on retrouve un peu des thématiques que Léo Ferré a traitées lui aussi. Donc, Léo a mis les stances de Ronsard en musique, mais nous allons rejoindre Baudelaire. Nous allons donc sauter quelques siècles. On arrive dans le 19e siècle. Baudelaire étant le poète dont il a mis le plus de poèmes en musique, puisqu'il y en a eu 58. Il disait, à son propos, « Avec Baudelaire, je suis passionné et passionnément critique. Quand j'ai lu le livre de Sartre sur Baudelaire, j'ai été violemment contre Sartre. Puis, j'y ai repensé, et beaucoup d'arguments m'ont impressionné. À cela près que Sartre est volontairement loin de la poésie. » Alors Sartre a écrit effectivement un livre intitulé Baudelaire, une étude, en 47. Et dans cette étude, il démontre que Baudelaire était un petit peu insincère peut-être par rapport à la dualité dont il parlait, par rapport au suicide également, par rapport aux femmes. Il y avait un rapport à la fois fascination, d'où les poèmes saphistes, et rejet. Enfin, voilà un certain nombre d'éléments qu'il y avait dans le livre de Sartre. Alors, il se trouve que Léo Ferré m'avait demandé d'écrire un texte pour un coffret qui réunissait Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire et Aragon, et j'avais intitulé ce travail « Les uns par les autres ». Je cherchais donc à montrer ce qu'il y avait de commun entre ces poètes, et Léo l'a relu ce texte et il l'a accepté. Et par conséquent, j'y ferai éventuellement référence, d'autant que ce texte a été réédité dans l'ouvrage « Vienne le temps » donc que j'ai écrit et publié aux éditions La Mémoire et la Mer en 2010. Alors j'y ferai référence par rapport à ces liens. Par exemple, Verlaine admirait beaucoup Baudelaire. Verlaine reconnaît en Rimbaud, son cadet, un poète d'exception. Et leurs destins seront mêlés, on en parlera tout à l'heure. Apollinaire, lui, se recommande de Baudelaire et de Rimbaud, et Aragon d'Apollinaire. Et Léo, il les réunit tous par la musique. Alors, c'est tous ces liens qu'il y a entre ces poètes qu'il est intéressant parfois d'examiner, d'autant que c'est pour un bon nombre d'entre eux ceux qu'on a appelés les poètes maudits, à cause de leur poésie d'une part et de leur difficulté aussi à vivre. Alors, on va écouter l'un des poèmes qui a été condamné justement par un juge, un poème qui faisait partie des Fleurs du Mal, Les Métamorphoses du Vampire.
Cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busc, laissait couler ses mots, tout imprégnés de mousse. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et sans voile la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Cher savant, si docte volupté, lorsque j'étouffe un homme en mes bras veloutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine, et fragile et robuste, que que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se damneraient pour moi. Sucer toute la moelle et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre au flanc gluant toute pleine de pus. Je fermais les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblait confusément des débris de squelettes qui de même rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer. Que balance le vent pendant les nuits d'hiver.
Il faut dire que ce poème est quelque peu inquiétant tout de même. Alors, la censure donc réunit Baudelaire et Ferré, mais d'autres choses également, par exemple leur capacité à renouveler les genres, les thèmes également, pour les oiseaux, les hiboux et les albatros, l'érotisme, la ville, une sensibilité à l'égard des miséreux et des vieilles personnes, leur hostilité évidemment à la religion et leur intérêt pour les artistes. Alors Baudelaire a traduit Edgar Poe, par exemple, et c'était un excellent critique en matière picturale. Baudelaire vilipende son époque et la provoque, à la fois par ses textes et ses comportements. Il a recours à des drogues et il se teint les cheveux en vert. Léo est lui aussi un versificateur et un prosateur, comme Baudelaire. Baudelaire qui a en particulier écrit Le Spleen de Paris, des poèmes en prose en quelque sorte tout à fait admirables. La fin de la vie de Baudelaire est terrible, hein, puisqu'il meurt paralysé et aphasique. Le seul mot qu'il pouvait dire c'était « créneau », c'est-à-dire « sacré nom de Dieu ». Et les religieuses de l'hôpital où il va mourir, à 46 ans, feront venir un exorciste. C'est dire l'ambiance. Alors c'est en 1957, pour les centenaires des Fleurs du Mal, que Léo Ferré a mis en musique 12 poèmes, puis il poursuivra en 1967 et en 1977. Son fils, Mathieu, a fait paraître en 2008 des poèmes sur lesquels Léo travaillait. Ils ne sont donc pas finalisés. Il chante pour lui-même, mais c'est intéressant à découvrir et aussi par rapport au choix de ces poèmes-là. Léo incluait souvent dans ses spectacles, même les spectacles qui n'étaient pas proprement des spectacles poétiques, hein, il y en a eu, mais dans ses propres spectacles, les chansons, enfin les poèmes de Baudelaire, L'invitation au voyage, Le spleen et La mort des amants. J'ai parlé d'humour et d'ironie chez Léo Ferré, mais Baudelaire également, dans ses textes en prose, fait appel un peu à l'humour. Et comme Léo, il a un penchant pour donner des surnoms. Ainsi, son éditeur à Baudelaire, qui s'appelait Poulet, trait d'union mal assis, il le surnommait Coco mal perché. C'est tout à fait dans l'esprit de Léo, ça. Dans l'œuvre de Léo Ferré, plusieurs textes font allusion à Baudelaire. Ou bien, carrément, il s'adresse à lui. Alors le terme que d'ailleurs Bernard aime beaucoup, c'est prosopopée. Je le resserre. Voilà ce qu'il dit. Les nuages me font un beau couvercle, Baudelaire, et j'y boue par en dessous. J'y boue de hargne tranquille et à la juste température. Ça, c'est dans mon programme. Dans la chanson 20 ans, que nous avions eu l'occasion d'écouter, il dit « On passe à l'examen de minuit ». Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Et c'est un titre emprunté à Baudelaire qui lui-même fait un bilan assez dramatique dans cet examen de minuit. Baudelaire a écrit l'Albatros et en écho, Léo Ferré, enfin les Albatros, Baudelaire, et en écho, Ferré écrira l'Albatros. Dans le poème « Je t'aime », une version de 71, La dernière strophe est tout à fait baudelairienne. Je t'aime pour ta gueule ouverte sur la nuit, quand la sève montant comme du fond des airs bouillonne dans ton ventre et que je te maudis d'être à la fois ma sœur, mon ange et ma lumière. Ça rappelle tout à fait à la mort des amants de Baudelaire. Alors, nous passons maintenant à Verlaine, toujours au XIXe siècle. C'est donc celui que Léo a mis en musique en premier, puisqu'il a commencé quand il avait 11 ans, avec la chanson d'automne, j'avais déjà évoqué cela. En 61, Léo Ferré va rédiger une longue et belle introduction, pleine de clarté et de finesse, et d'empathie, par rapport à Verlaine, pour les poèmes saturniens. C'est paru en livre de poche. Il écrit « Verlaine a pris le vers français à la sortie des fleurs du mal et l'a planté dans notre siècle. Verlaine est le plus humain de tous, le plus démuni. » Quand Léo Ferré évoque la bisexualité du poète, c'est pour dire « Verlaine était androgyne, il l'acclamait sur la place publique. Les autres poètes, tous les autres, sont aussi des androgynes. La plupart en font secret. Ils ont honte de la femme qu'ils portent en eux. Homme, il aima la femme. Femme, il aima les hommes. Il aima follement, et c'est cet amour qui m'intéresse. » En 1964, donc, Léo a pour projet de faire un album sur Verlaine, et finalement, il fera un double album, l'un pour Verlaine, l'autre pour Rimbaud, une façon de les réunir. La vie de Verlaine va être très difficile, aggravée en plus par sa dépendance à l'absinthe. C'est une boisson qui, à l'époque, contenait une molécule qui rendait fou et qui provoquait des grandes violences. Par la suite, l'absinthe a été interdite et l'absinthe que l'on trouve actuellement dans le commerce a été débarrassée de cette molécule. Donc Verlaine va faire un certain nombre de séjours en hôpitaux pour ce problème-là. Et évidemment, toute sa vie va en être quand même profondément marquée. On écoute un premier poème dédié à son épouse. « Je vous vois encore ».
Je vous vois encore en robe d'été, blanche et jaune avec des fleurs de rideau. Mais vous n'aviez plus l'humide gaieté du plus délirant de tous nos tantôt. Petite épouse, la fille aînée, était reparue avec la toilette, et c'était déjà notre destinée qui me regarde sous votre voilette. Soyez pardonné, et c'est pour cela que je garde, hélas, avec quelque orgueil, en mon souvenir qui vous cache là, l'éclair de côté que coulait votre œil.
L'échec de cette union est suggéré dans ce poème, tout en délicatesse, et la musique de Léo Ferré souligne encore cette histoire. Le second poème que nous allons écouter, celui cette fois qu'il a écrit pour son amant, Arthur Rimbaud. Quand ils se sont connus, Arthur Rimbaud avait 17 ans et Verlaine en avait 27. Âme, te souvient-il ?
vient-il au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour, venu de la chapelle, jadis déjà, combien pourtant je me rappelle. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet Auteuil, et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelque tendance aussi franche à nier, mais si vite quittée au premier pas du doute, et puis nous rentrions plus que lent par la route un peu des écoliers, chez moi, chez nous, plutôt y déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps une vague besogne. Pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne.
Dans ce poème aussi, le texte en suspens montre la déchirure entre ces deux hommes et la musique de Léo Ferré renforce cette impression. Alors bon, on sait que Verlaine a tiré un moment dans un accès de folie sur Rimbaud, l'a blessé. Il va donc aller en prison. Il fera plusieurs séjours de toute façon en hôpital, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il vit dans la misère. Il va toute sa vie s'efforcer de faire connaître l'œuvre de Rimbaud. Puisque Rimbaud, lui, on en parle après, mais il est parti dans le silence, disons. Et les similitudes qu'il y a par rapport à Léo, là, c'est l'extrême sensibilité, bien sûr, et le fait aussi que Verlaine était quand même, malgré sa misère et sa difficulté à vivre, un modèle pour tous les artistes et la jeunesse de son époque. Autre petite... parenté. Il se trouve que Verlaine, à un moment, a eu un rôle de fermier dans une ferme, et Léo Ferré, ça se sait pas forcément beaucoup, également. Donc ça leur fait quelques points communs. Alors, Rimbaud, évidemment, donc on parle après de Rimbaud puisqu'il est plus jeune. Alors Rimbaud, bah, c'est un météore, il va écrire entre 17 ans et 21 ans des textes d'une très très grande force, une très grande originalité. Et puis après, il va se taire, il va disparaître en exil et mourir à 37 ans. Verlaine est mort à 52 ans, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors, Léo dit de Rimbaud, Rimbaud, lui, était un géant, le plus intelligent de tous. C'est une cathédrale, ce type. Dans la lettre du voyant, Rimbaud affirme « Je est un autre ». Léo Ferré écrit dans un texte « Je suis dicté ». Et aussi « Je ne suis qu'un voyant » embarrassé de signes. Dans une saison en enfer, Rimbaud déclare « J'ai joué de bons tours à la folie ». Léo écrit « Je ne m'arrête plus quand je vois la folie, je fais ses commissions et couche dans son lit ». Rimbaud, en s'adressant à Satan, dit « Cher Satan ». Léo écrit « Thank you, Satan ». Rimbaud, dans « Mauvais sang », affirme « Je voudrais me taire ». Léo, dans « Ma vie est un seul homme », avoue « Quelle horreur de m'entendre ». Quelle horreur de gueuler. On voit quand même qu'il y a quelques parentés. Alors le fait que Rimbaud ait écrit si jeune et cessé d'écrire fascine. Mais d'une part, il avait donc confié qu'il voulait se taire, et d'autre part, il est parti vers cet Orient qui l'attirait, vers le soleil qui voulait desséchant, vers l'or, vers les armes, vers l'aventure. C'était quand même quelques-uns de ses fantasmes. Alors il est vrai que cette aventure se termine mal, puisqu'il va revenir malade et on va l'amputer, lui qui était le poète aux semelles de vent. Mais cette fuite, en fait, elle est liée quand même en grande partie aux relations complexes qu'il a avec sa famille, en particulier avec sa mère, et au contexte social. En l'occurrence, la Commune de Paris de 1871. Il avait 17 ans quand il traverse la Commune de Paris. Ça l'a marqué. Il a écrit plusieurs poèmes sur cette tragédie. Alors, la Commune de Paris, c'est une guerre civile. C'est un échec d'une révolte, c'est une répression sanglante, y compris à l'égard des femmes qui sont battues sur les barricades et à l'égard des enfants. La semaine sanglante s'arrête seulement parce que les égouts de Paris ne peuvent même plus assimiler le sang des fusillés. Le mouvement libertaire qui était à la tête de cette révolte va être fracassé. Les quelques survivants seront déportés massivement. C'est le cas de Louise Michel, qui, au demeurant, était une amie de Verlaine, qui a écrit une ballade en l'honneur de cette femme. Il est possible, c'est une thèse d'ailleurs de Pierre Gascard, dont je parle dans mon livre, que c'est ce massacre, ce désespoir, hein, cette brisure, qui a quand même incité Rimbaud à partir. Est-ce que, une fois tous ces fantasmes réalisés, hein, l'Orient, etc., est-ce que s'il avait survécu, il aurait écrit ? C'est pas impossible. Évidemment, nul ne le sait. On va écouter la révolte de ce gamin prodigieux, d'une extrême lucidité, les assis.
Noir de loup, grêlé, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, le sein sipute plaqué de hargnosité vague, comme l'effloraison lépreuse des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures, aux grands squelettes noirs de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'allume en mailloté dans ses tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les dix doigts sous leurs sièges aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats chifflés, ouvrant lentement leurs omoplates au rage. Tous leurs pantalons bouffent à leurs reins pour souffler. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors. Et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Ils ont une main invisible qui tue. Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue. Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever. Et de l'aurore au soir, des grappes d'amygdale sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de chaises sans lisière, par lesquelles de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule les bercent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épines.
Alors, comme tu l'as rappelé, ces trois derniers titres et bien d'autres figurent sur un double album. C'était déjà en 1964 à Paris. Et rendons pour une fois hommage à Eddie Barclay, qui a laissé une totale liberté à Léo pour concevoir ce double album en 1964. Je le redis, car la variété française était alors submergée par le tsunami yéyé depuis environ 4 ans. Donc c'est pour une fois un coup de chapeau à M. Barclay, dont on a déjà dit du mal, dont on redira du mal.
Dont j'avais dit du bien également. Hein, j'avais bien dit que quand même c'était aussi un artiste. Hein,
et reconnaissons-lui aussi la paternité d'avoir introduit le micro-sillon. J'en ai parlé tout à l'heure. Après le 78 tours, première révolution psychologique, première révolution technologique. Et on peut, puisque j'ai parlé de Néandertal pour le 78 tours, disons que le micro-sillon fut le Cro-Magnon par rapport à Sapiens Sapiens.
Bon, nous allons essayer de revenir au 21e siècle et maintenant. Léo Ferré donc a mis en musique par la suite d'autres Rimbaud, Le bateau ivre entre autres, 1982, qui est un texte difficile, On n'est pas sérieux quand on a 17 ans en 87. Et Une saison en enfer, donc en 92, Une saison en enfer étant un texte intense, extrêmement moderne, mêlant à la fois prose et poème. Et c'est quand même, malgré tout, un texte basé sur l'idée d'échec. Alors, au poème intitulé « Voyelles » de Rimbaud, où il disait, il attribuait des couleurs aux voyelles, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. Léo écrit dans Technique de l'exil, La grande misère du langage nous contraint à une forme de pensée stéréotypée. Je trouvais une odeur aux voyelles, pourrait encore dire Rimbaud. A vernis, E menthe, I charbon, O foin, U éther. Et les consonnes. On pourrait leur donner un relief, une matière, B, gras, C, diaphane, D, osseux, F, papier bible, ou bien des sons, des fréquences d'oiseaux, des graves moelleux, un médium tranquille, l'alphabet passé par tous les sens. Voilà ce que Rimbaud prévoyait. Alors nous pourrions peut-être entrevoir une littérature d'unique, la littérature sans mots, une littérature qui se mangerait, qu'on respirerait, qu'on verrait, qu'on toucherait, qu'on entendrait. Il faut que je puisse me regarder dans la fontaine sans faire de littérature. Or, j'en fais. Dans l'exil du miroir, je fais de la littérature. Je suis une double question, un double désespoir. J'entre dans la légende de Narcisse. Je me poursuis, je m'adopte, je m'adore et je me tue. Voilà donc Léo et Rimbaud de conserve. Alors Léo Ferré est allé d'ailleurs sur les lieux de Charleville-Mézières, les lieux de vie de Rimbaud. Rimbaud est devenu un mythe, son visage était reproduit partout, sur les vêtements, dans la musique, dans les tableaux. C'est le voleur de feu qui est donc devenu une icône. Alors maintenant nous allons parler du dernier poète qui est à cheval sur le 19e siècle et le 20e siècle, à savoir Apollinaire. Apollinaire, donc, que Léo Ferré va mettre en musique plusieurs fois, avec bien sûr la chanson du mal-aimé dont on a parlé, et avec des textes beaucoup plus courts. Alors, pour Léo Ferré, il disait qu'Apollinaire était le grand poète du XXe siècle. Il disait « il a tout inventé ». Alors, c'est le poète de la modernité, de la simultanéité, qui investit à la fois l'espace spatial et temporel. Dans un poème qui s'intitule « L'arbre », Apollinaire dit « J'entends déjà le son aigre de cette voix venir du camarade qui se promène avec toi en Europe, tout en restant en Amérique. » Et Léo, dans « Il est 6h ici et midi à New York », dit « Une bonne ampée de vernis horaire et qui n'en finit plus de se chercher. Il est la mort ici et la mort à Hong Kong. La Joconde est rentrée dans le point de Vinci. C'est terminé. » Là aussi, relation avec l'expansion du temps et de l'espace. Le fait qu'il parle de la Joconde n'est sûrement pas fortuit, parce que Apollinaire, qui fait donc partie quand même des poètes un peu maudits, avait hébergé un ami qui avait volé quelques œuvres au Louvre, et entre autres, la Joconde. Apollinaire a été incarcéré quelques jours. Or, Picasso, l'ami d'Apollinaire, aurait pu témoigner et aurait pu faire disculper plus vite Apollinaire. Il ne l'a pas fait. Et Léo Ferré y fait référence dans nombre de chansons, avec Judas, dont on avait parlé, hein, la trahison des amis, qui est aussi un thème cher à Léo. Alors, l'érotisme aussi est présent hein, dans l'œuvre d'Apollinaire, entre autres avec le texte qui s'appelle « 11 000 verges ». Une interprétation érotique de la chanson du mal-aimé est parfois avancée, elle est moyennement satisfaisante, mais enfin, ce n'est pas exclu de s'épancher là-dessus. La chanson du mal-aimé dure 46 minutes, aussi nous allons nous contenter du pont Mirabeau.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, l'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, passe les jours et passe les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Alors Apollinaire, donc, qui est à cheval sur le 19e et 20e siècle, meurt en 1918, donc à 38 ans, donc fort jeune, de la grippe espagnole. Mais il était affaibli, ça fait beaucoup de ravages à cette période-là dans toute l'Europe, hein, la grippe espagnole, à cause de la guerre qui avait précédé, où les gens étaient mal alimentés. Et aussi, pour en ce qui concerne Apollinaire, il avait eu une blessure de guerre, puisqu'il avait dû être trépané. Léo Ferré a écrit un texte à Apollinaire qui s'intitule « Guillaume, vous êtes toujours là ». Et il y a cette phrase que j'avais, je crois, déjà citée, qui est très belle. Les poètes meurent quand ils ne sont plus dictés par l'ineffable. Voilà ce qu'il écrivait par rapport à Apollinaire. Alors, il y a des liens entre Léo Ferré et Apollinaire au niveau des lieux, puisque Apollinaire a vécu à Monaco, a vécu à Nice, a vécu à Marseille, donc les mêmes endroits. Et dans la chanson que Léo a écrite sur Marseille, il dit « Ô Marseille, on dirait que le cœur te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire, ange frais débarqué à Marseille hier matin ». Alors, Léo Ferré a aussi été visiter l'appartement d'Apollinaire à Saint-Germain-des-Prés, tel que sa veuve l'avait conservé pendant très longtemps, intact, comme il était du temps d'Apollinaire. Et il y a plusieurs photos que l'on peut voir de Léo Ferré dans les murs d'Apollinaire. Alors, d'où vient le temps, quand j'ai parlé d'Apollinaire, j'ai essayé de le défendre, de faire un plaidoyer pour lui, parce que Léo lui reprochait, et d'autres lui reprochent, d'avoir eu ce côté un peu cocardier pendant la guerre de 14-18, et entre autres d'avoir dit aussi, moi, j'y reviendrai peut-être après, « Adieu que la guerre est jolie ». Alors l'aspect cocardier, d'abord, tous ceux de 14-18 au départ étaient partants pour la revanche de 70, qui avait entraîné la Commune après. Et pour Apollinaire, il avait une filiation obscure, il était apatride, et donc il voulait s'engager de façon à remercier la France de l'avoir accueilli. C'était son pays d'accueil, et il faut quand même rentrer ces éléments-là pour comprendre. Par ailleurs, ce vers qui a fait couler beaucoup d'encre, « Adieu que la guerre jolie », est à prendre au second degré. Parce que voilà ce qui est dit dans l'adieu du cavalier. « Adieu que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs, cette bague que j'ai polie, le vent se mêle à nos soupirs. Adieu, voici le bout en selle. Il disparut dans un tournant et mourut là-bas, tandis qu'elle riait au destin surprenant. » Donc ça se termine quand même mal, ça démarre bien, mais ça se termine mal. Et dans un autre poème, « Chant de l'honneur », il écrit sur un tout autre ton. « Vos cœurs sont tous en moi, je sens chaque blessure. Ô mes soldats souffrants, ô blessés à mourir. » Et puis finalement, la guerre lui éclatera la tête à Apollinaire. Écoutons un deuxième poème, très court, qui est dans le deuxième volume d'Amour Anarchie et aussi au dos du 45 tours sur lequel figurait Avec le temps, l'adieu d'Apollinaire.
J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, bois de bruyère. Souviens-toi que je t'attends, et souviens-toi que je t'attends.
À propos, nous allons nous quitter, mais pas sur un adieu, j'espère.
Non, point. Alors, bah, avant d'annoncer la suite, d'autres poètes de ces siècles-là avaient retenu Léo Ferré, et il les cite dans des chansons, ou alors il écrit des vers en décalque avec, en résonance. C'est le cas de Salomon, de Racine, Shakespeare, Victor Hugo, Corbière, Laforgue et Mallarmé. Il avait commencé aussi à mettre en musique les chants de Maldoror de Lautréamont. Il s'est arrêté. Il semblerait qu'il y a des traces de ça et que peut-être un jour on les entendra. Alors, dans la prochaine émission, nous approcherons les poètes du XXe siècle, donc après Apollinaire, à savoir Aragon, les surréalistes, Pavese, un grand poète italien, et d'autres tels Baer, Segers, Claude Simon, Bérimont, Macorlan et Cosimon. Aussi, nous avons rendez-vous le mois prochain avec ces poètes.
Nous nous en réjouissons. Forcément, ce n'était donc qu'un au revoir. Colette Brognard, merci.
Merci Bernard. Merci Raphaël.